avant de continuer cette recherche sur la substance, on me pose quelques questions. N'oubliez jamais que les questions que vous vous posez, essayez de les écrire pour répondre à ces questions. Il ne faut jamais rester devant une interrogation à laquelle on n'a pas répondu. On peut attendre, hein, mais il faut l'écrire. C'est très curieux que du fait d'écrire ces questions, on s'aperçoit souvent que les questions dégringolent. Si la connaissance analogique est par elle-même et pour elle-même, sans être liée à l'univocité, elle devient univoque. Oui, autrement dit, cette distinction que nous faisons, qu'Aristote a fait, qu'il est le premier à l'avoir fait, c'est toujours très important au point de vue philosophique, de remonter, c'est là où l'histoire est intéressante, de remonter à quel moment la distinction a eu lieu. Vous voyez, au point de vue philosophique, la distinction entre le point de vue de la connaissance univoque et de la connaissance analogique. Bon, on affirme ça aujourd'hui, mais quel est le premier qui a vu ça? Le premier qui a vu ça, c'est Aristote en face de Platon. C'est pour répondre à Platon. Pour répondre à Platon, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qu'il y a de vrai dans Platon et ce qu'il y a de faux. Platon est quand même un très grand bonhomme, hein, majestueux. Et Platon a toujours quelque chose à nous apprendre, parce que c'est un génie. Oui. Hegel à côté de Platon n'est pas grand-chose, hein. Il faut bien voir que Platon avait quelque chose d'extraordinaire. Répondre à Platon, c'est pas commode du tout. Ça fait penser au petit David en face de Goliath, point de vue imagination. Le petit David, la fronde. La fronde, pensée analogique. En face de Goliath, qui est armé univoquement, d'une façon extraordinaire. L'armure de Goliath, c'est une armure qui prend tout l'homme. Alors que l'armure, au début, c'était d'avoir la défense. Ça ne prenait pas tout l'homme. L'armure était pour répondre aux attaques. Et on a fait de l'armure l'attaque. C'est très curieux, hein, des changements comme ça. Et c'est toujours très intéressant de voir, quand on est très attaqué, les arguments de réponse aux attaques deviennent des arguments réels. Alors qu'en réalité, c'est des arguments de réponse aux objections. Platon, c'est le Goliath de la philosophie. C'est le bonhomme armé parfaitement, merveilleusement, à tout. Il y a un dialogue pour tout. Le petit Aristote, la fronde. Où attaquer? Comment attaquer? Et c'est vrai, comment attaquer Goliath? Comment attaquer Platon? Saisir le moment où il y a eu confusion. Donc, un manque de distinction. Toutes nos erreurs viennent de nos confusions. Toujours. Toutes les erreurs. On a fait une alliance fausse. On a uni deux choses. On a uni deux démarches intellectuelles très différentes. La démarche fondamentale de l'intelligence, première fondamentale, pas au point de vue plus profond, mais disons la première, c'est plus juste, la démarche première de notre intelligence, c'est de passer de papa à homme. Toujours revenir à ça. Et quand vous voyez des gosses, c'est très intéressant de voir comment il est passé de papa à homme. Quand on passe de papa à homme, c'est l'éveil de l'intelligence. L'intelligence, pour nous, c'est éveillée dans la connaissance de l'homme face à papa. Rappelez-vous bien quand vous avez fait cette distinction. Je vous dis ça parce qu'il est impossible pour vous de vous le rappeler. Le langage vous a beaucoup aidé. Parce qu'il y a deux mots. Il y a papa et homme. Alors, il y a papa et homme. Au début, tous les hommes sont papa. Et puis au bout d'un certain temps, ah, papa, il y a quelque chose de particulier. C'est maman qui m'a aidé à faire la distinction entre papa et homme. Parce qu'elle n'a pas la même attitude à l'égard de papa qu'à l'égard de homme. Ah, tiens. Et si la mère avait la même attitude, on n'aurait pas fait la distinction entre papa et homme. C'est capital cette distinction, papa et homme. C'est le moment où l'intelligence s'éveille. Mais elle s'éveille non pas comme intelligence, elle s'éveille comme raison. C'est-à-dire l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, c'est la raison. Notre manière première de connaître, c'est la raison. Et cette manière première de connaître, elle s'est faite grâce à une abstraction universelle. Le passage de papa à homme, c'est l'abstraction universelle. Et le langage repose entièrement sur l'abstraction universelle. Le langage permet, il n'y a pas besoin que papa soit présent, le langage, en mettant deux mots différents, papa et homme, papa c'est tel homme, homme c'est l'homme. Universel. C'est très extraordinaire, ce premier moment de l'éveil de la raison. Et ce passage. Grâce à ça, le langage est possible. Parce que le langage ne repose pas sur papa. Ça, c'est l'expérience. L'expérience affective, papa. L'expérience affective de maman par rapport à papa. Le gosse a vu que papa avait une attitude différente à l'égard de maman qu'à l'égard de tous les autres. Et le gosse, il est curieux, il regarde. Il est arrivé à la distinction. Et je crois que je prends papa et homme parce que je crois que c'est vraiment ça qui est le point de départ. Donc, abstraction universelle. Le passage de papa à homme vous n'y avez peut-être jamais réfléchi. C'est un passage extraordinaire. S'il n'y avait pas ce passage de papa à homme, il n'y aurait pas de science. La science naît à partir du moment où homme a une signification propre, détachée de papa. Parce que papa n'est pas le principe de la science. Je l'aime trop. Il est trop uni à maman. Tandis que homme, ah, toutes les fenêtres sont ouvertes. Homme, toutes les portes sont ouvertes. Homme. Et je crois que c'est très fort ce papa. C'est la même chose pour maman, femme et main, mais c'est moins clair, c'est moins net. Alors, il y a un premier moment qui est extrêmement important, c'est ce point de vue de la connaissance universelle, dont je n'ai pas conscience. Je fais ça automatiquement. Vous ne réfléchissez pas quand vous en parlez, quand vous apprenez une langue, oui, vous y réfléchissez, ce passage. La langue repose sur le point de vue de la connaissance universelle. La connaissance universelle me permet de me dépasser de l'individu. Et je connais l'universel qui rassemble tout l'individu. C'est extrêmement riche, la connaissance universelle, c'est fondamental. Cette connaissance universelle, elle prend différentes modalités. Genre, différents spécifiques, espèces, propriétés, accidents. Tiens. Je ne sais pas quel est celui, philosophiquement, le premier qui a vu ça. Je crois que c'est Aristote, mais je n'ose pas l'affirmer. C'est le début de la logique. La logique, elle naît à partir de l'universel. Tant que je n'ai pas saisi l'universel, je ne sais pas ce que c'est que la logique. Mais la logique naît à partir de l'universel. Et la découverte de l'universel est quelque chose de tellement important qu'ayant découvert la logique, il n'y a plus que la logique. Faites cette petite étude très simple qu'il faut faire, un article de journal. Voir cet article de journal repose sur une certaine connaissance. Vous avez dans l'article de journal genre, différents spécifiques, espèces, propriétés, accidents. C'est le langage. Alors c'est curieux, c'est très curieux. Pourquoi 5 modalités d'universel ? Vous voyez, ça, je dois m'interroger, c'est quelque chose de vital pour moi. On m'a appris ça. On vous a tous appris ça, point de vue logique. La logique repose sur le genre, différents spécifiques, l'espèce, sa propriété, l'accident. Ça, il faut connaître ça par cœur, les 5 doigts de la main. Le petit doigt, c'est l'accident. Le pouce, c'est le genre. Gros genre. On revient tout le temps au genre. Et beaucoup d'articles de journaux reposent sur ces 5 modalités universelles. Je me suis posé la question, pourquoi 5 modalités de l'universel ? C'est la structure fondamentale de mon intelligence. Je crois que cette structure fondamentale de l'intelligence unit toutes les cultures. Pour le chinois, je cherche. Parce que c'est quand même une modalité de connaissance très spéciale. Mais toutes les cultures européennes, c'est cinq. C'est très curieux. Pourquoi le chinois a d'autres structures? Une structure fondamentale de l'intelligence. La langue chinoise distinguait beaucoup plus difficilement genre, différents spécifiques, espèces, propriétés, genre, accidents. Ça, vous le faites. Et c'est propre à toutes les cultures européennes. Donc, c'est très fondamental. Pourquoi cinq? C'est normal que le philosophe se pose la question. On nous a appris qu'il y avait un genre, oui, on vous a appris, quand vous avez fait un peu de logique, un genre, une différence spécifique, genre animal. Bon, faut pas chercher trop longtemps pour comprendre ce que c'est que le genre, parce que nous le portons tout le temps en nous-mêmes. Hein. Animal, l'animal, il prend sa place. Hein. Et quand on l'oublie, il se met à beugler et à crier. L'âne ou la vache, ou ça s'entend. Le genre. Beaucoup de personnes ne dépassent pas le genre. C'est très curieux. C'est intéressant du reste. Alors il y a des cultures qui sont très génériques. Des cultures beaucoup plus artistiques, la différence spécifique. La différence spécifique de l'homme raisonnable. L'espèce homme. Propriété capable de rire. Parce que je crois que c'est ça la propriété de l'homme, est capable de rire. C'est pas la parole. On a dit tout le temps que la propriété de l'homme, c'était la parole. C'est faux. L'animal peut arriver, le perroquet arrive très bien parler. Tandis que j'avais jamais fait un perroquet rire. Il fait des grimaces. Et ce qui irrite le plus le singe, c'est de rire. Les grands singes, quand vous vous mettez à rire en face d'eux, ils ne sont pas contents du tout. Parce qu'ils ne peuvent pas vous imiter. Vous n'avez jamais vu un singe rire. Tandis que ce que la mère cherche en premier lieu, ce n'est pas que l'enfant parle, c'est que l'enfant sourit. Et ça, c'était le génie grec. Les autres cultures, c'était le mouvement. La Grèce, c'était le sourire. C'est le propre de la culture. Et ça, c'est très affectif. C'est quelque chose d'extraordinaire. La propriété de l'homme, c'est le sourire. La très sainte Vierge a toujours parlé, mais à Banneux, elle n'a pas parlé, elle a souri. C'est pour ça que Banneux, c'est le sourire de Marie. C'est pas la parole. Une mère enseigne plus par son sourire que par la parole. Le père, c'est très rare qu'il enseigne par le sourire. L'homme aime mieux la parole que le sourire. La femme aime mieux le sourire que la parole. Tiens, c'est la grande différence, hein, fondamentale. C'est très curieux, ça. Et il faut réfléchir, c'est le propre de l'homme, sourire. L'accident, c'est n'importe quoi. C'est tout. On met tout dans l'accident. Pourquoi les cinq? On doit se poser la question. Je constate qu'il y a cinq prédicables dans toutes les langues indo-européennes, dans toutes les langues, sauf pour le chinois. Il faudrait voir ce que sont devenus en chinois, dans la langue chinoise, les cinq prédicables. Les cinq prédicables. Quel est le genre, différence spécifique, propriété, espèce? C'est la base de toute culture européenne. Alors, je crois, C'était une recherche que j'avais faite à Fribourg pendant toute une année. Ça m'avait beaucoup intéressé. Je crois que ça dépend de nos cinq sens. Il y a cinq prédicables parce que nous avons cinq portes pour contact avec l'extérieur. J'ai le contact avec l'extérieur par les cinq portes. Et ces cinq portes sont au point de départ de cinq imaginations spéciales. L'imagination visuelle, l'imagination auditive, l'imagination du goût sont différentes. Et par le fait même, il y aura à partir de là cinq modalités d'universaux. C'est quand même très intéressant de voir que l'homme est basé, son intelligence, elle dépend des cinq sens. Un ange, il n'a pas cette dépendance des cinq sens. Alors vous voyez tout de suite, au fond, Platon, il veut être angélique. La manière d'être angélique, c'est de se passer des cinq sens. Mais c'est dangereux, puisque nous ne sommes pas des anges. L'homme est lié aux cinq sens. Et pour chacun d'entre nous, nous avons un sens qui s'est développé plus que l'autre dans notre éducation. Et sûrement que notre mère n'a pas fait attention à ça. Mais ça joue. L'éducation qui développe beaucoup le point de vue visuel, l'éducation avec le cinéma a développé énormément le point de vue visuel. Dans l'éducation moderne, le point de vue visuel est premier. Et le point de vue visuel a de la peine à distinguer le réel de l'imaginaire. C'est pour ça qu'il y a une tentation permanente de l'imaginaire. Tandis que la connaissance tactile, le toucher, ah, il n'y a pas de danger. Le toucher, c'est le sens de l'existence. Tandis que la vision, c'est le sens de ce qu'est la chose, sa fluidité. Ce qu'est le chat, ce qu'est l'animal. Vous voyez, au fond, chaque culture a développé plus tel ou tel sens. La grande diversité des cultures vient de là, des sens. Très curieux. Je me souviens un jour d'avoir été pris en autostop par quelqu'un dont le métier était d'inventer des parfums. C'est un métier artistique intéressant et ça m'avait intéressé beaucoup de le faire parler pour voir comment il arrivait à préciser un parfum. Y arriver, c'était très intéressant de voir ça. Parce que c'est vrai, le parfum, avoir un bon nez, et c'est toute une connaissance qui se fait, différente de lui. Et le point de vue du toucher, encore une différence. Nos cinq sens, cinq contacts avec la réalité qui donnent cinq modalités de l'universel. Très étonnant, ça. C'est la base, c'est le fondement. Mais l'intelligence n'est pas que raison. L'intelligence demeure intelligence. Mon intelligence est lié aux cinq sens, mais mon intelligence est liée à l'image et dépasse l'image. Et mon intelligence a son objet au-delà de l'image, ce qui fait que l'intelligence dépasse cette première abstraction universelle pour découvrir ce qu'est l'abstraction formelle. Il y a deux procédés d'abstraction. Je crois qu'on doit les retrouver dans toutes les cultures. Deux procédés d'abstraction. Le point de vue commun, qui est le fondement de la parole. Et puis, ensuite, le fondement de la science. Une science ne peut pas se construire uniquement sur l'universel. Elle implique l'universel. Il n'y aurait pas de science s'il n'y avait pas connaissance de l'universel. Toujours, c'est sûr, le dépassement de l'individu, le dépassement de l'expérience. Mais il y a quelque chose de plus. On peut étudier dans l'universel ce qu'il y a de tout à fait particulier à travers ces diverses modalités d'universel. Et j'ai ce qu'on appelle l'abstraction formelle. L'abstraction formelle, j'en suis conscient. Je suis conscient d'être en mathématiques, d'être en métaphysique. Ce n'est pas la même abstraction. L'abstraction universelle, elle est commune. C'est sûr, elle est la base. À partir de l'abstraction universelle, il y a l'abstraction formelle. L'abstraction formelle du mathématicien n'est pas la même que l'abstraction formelle du métaphysicien. N'est pas la même que l'abstraction formelle du biologiste. Chaque science a sa formation, son abstraction formelle. C'est ce qui fait le caractère propre d'une science. Tant qu'on n'a pas saisi le caractère propre de son abstraction formelle, on ne connaît pas le caractère propre de cette science. C'est très curieux quand vous regardez le développement des sciences. C'est l'abstraction formelle qui prend le dessus, qui n'est plus directement en contact avec la réalité. Toute abstraction formelle présuppose une abstraction universelle. Toujours. Mais dans l'abstraction universelle, je peux essayer de saisir ce qu'il y a de particulier, de formel. Quelle différence y a-t-il entre l'abstraction mathématique et l'abstraction métaphysique ? Ça, si on commence à faire de la métaphysique, on a tous fait un peu de mathématiques avant. C'est intéressant de voir la différence entre l'abstraction du métaphysicien et l'abstraction du mathématicien. C'est une distinction formelle extrêmement intéressante. La métaphysique essaie de saisir ce qu'il y a de détermination au-delà de la matière. On distingue matière et forme. Oh, assez extraordinaire. À partir de la physique, connaissance, différence entre matière et forme. différence entre matière, corps, l'âme, forme. Et ceci à l'intérieur même de l'abstraction universelle. Et j'essaie de saisir ce qu'il y a de formel, c'est-à-dire antérieur à la matière. La matière, c'est source d'indétermination, la forme, source de détermination. Et j'essaie de saisir ce qu'il peut y avoir de tout à fait formel, c'est-à-dire au-delà de la matière. Ce qui n'est pas relatif à la matière, mais qui est au-delà de la matière. L'être, ceci est en tant qu'être. L'abstraction métaphysique. L'abstraction métaphysique est unique. C'est la philosophie. Elle est au-delà de l'abstraction universelle. Je ne m'arrête pas à l'univers, mais l'abstraction universelle est toujours présente. C'est sûr, je ne peux pas penser sans l'abstraction universelle. Je ne peux pas penser en dehors de la connaissance de l'universel. Et c'est pour ça que la connaissance univoque de l'universel est toujours présente. Je travaille sur cette abstraction pour arriver à une abstraction au carré. C'est à l'intérieur de l'universel que j'essaie de saisir la différence entre matière et forme. La distinction entre matière et forme, c'est la première distinction formelle. Mais je peux très bien montrer que non, ce n'est pas cette abstraction-là qui m'intéresse le plus, parce que je peux essayer de penser ce qu'est la quantité. La quantité est propriété de la matière. Donc elle est toujours liée à la matière. La quantité, c'est le divisible. L'abstraction mathématique ne dépasse pas le divisible. Je suis toujours en présence du divisible à l'infini. En métaphysique, je suis au-delà du divisible. Je saisis l'acte. Vous voyez, au fond, les deux abstractions, mathématique et abstraction métaphysique, ces deux types d'abstractions, mathématique et métaphysique, sont assez proches. C'est les deux grandes abstractions formelles pour nous. L'abstraction formelle du mathématicien, l'abstraction formelle du métaphysicien. Quand vous parlez de la substance, vous n'êtes pas au niveau de la quantité, vous êtes au niveau de l'être. L'intelligibilité de ce qui est. Ce qui est en tant qu'il est, est intelligible. Est intelligible en lui-même, l'être, à son intelligibilité. Abstraction formelle du métaphysicien, la métaphysique. Une distinction des sciences se font toujours à partir des abstractions formelles. L'abstraction universelle est toujours présente. s'il n'y a pas d'abstraction formelle, il ne peut pas y avoir de science. C'est grâce à l'abstraction universelle que la science peut exister. Mais la science n'est pas seulement au niveau de l'abstraction universelle. Elle est dans l'abstraction universelle le souci de saisir la distinction entre ce qui est indéterminé, source de toutes les déterminations, mais qui en soi n'est pas déterminé, en puissance, et ce qui détermine l'acte. La distinction que je fais entre ce qui est quantifié, ce qui est quantifié, la quantité, c'est la source de toute divisibilité. Tout ce qui est quantifié est divisible. Le divisible représente une abstraction formelle très particulière, l'abstraction mathématique demeure dans le divisible, mais sous un aspect formel, le divisible est pris pour lui-même à l'infini. Il est divisible à l'infini. C'est pour ça qu'en mathématiques, toujours le point de vue de l'infini est toujours présent. On ne peut pas penser mathématiquement sans l'infini. L'abstraction métaphysique, elle, dépasse le point de vue du divisible. Qu'est-ce qui dépasse le divisible ? C'est l'acte. Ce qui existe en acte, qui n'est pas nécessairement divisible. Le divisible est une modalité particulière de l'acte. Mais ce n'est pas l'acte pur, puisqu'il est divisible. Ce qui est divisible implique toujours une potentialité. C'est grâce à la potentialité qu'il est divisible. S'il n'y avait pas de potentialité, il ne serait pas divisible. Donc, le divisible implique la potentialité. L'abstraction mathématique implique le point de vue du divisible. L'abstraction métaphysique dépasse le divisible pour saisir ce qui est. Ce qui est en tant qu'être implique comme modalité particulière le divisible. Mais l'être n'est pas toujours divisible. Il peut y avoir un être qui n'est pas divisible quand vous avez une forme pure, une détermination pure qui est au-delà du divisible. Quand vous saisissez un principe métaphysique, la nature, la substance, ce sont deux principes, hein. La nature, principe du mouvement. La substance, principe d'être. Ce qui est principe est premier. S'il est premier, il n'est pas divisible. Il est principe. Il a sa détermination propre, actuelle. Et il est saisi par lui-même. Et en lui-même, l'évidence. Quelque chose est évident quand il est saisi en lui-même, non pas par un autre. Vous avez donc là ces deux grands aspects de la connaissance humaine, le point de vue de l'abstraction universelle, l'abstraction formelle. Bon, ça, c'est la grande découverte d'Aristote. Ce que Platon n'a pas vu. Et c'est par là que Aristote attaque Platon. C'est pourquoi pour Platon, n'y a qu'une seule abstraction, arriver à l'être en soi, la forme en soi, la forme qui est saisie et qui est saisie pour elle-même, c'est l'en soi de Platon. On saisit l'homme en soi, tandis que pour Aristote, on saisit dans l'homme ces deux aspects, matière, le corps, l'âme. L'en soi en l'homme est double. Votre corps fait partie de vous, de votre en soi. Votre âme fait partie de vous, c'est votre en soi. Donc il y en a deux. Votre corps n'est pas votre âme. Vous voyez comment la distinction entre abstraction universelle et abstraction formelle. Je saisis l'ordre dans l'abstraction formelle. Ce qui actue, ce qui est déterminé par rapport à ce qui est potentiel. Toujours. Et je saisis ce qui détermine l'autre. Tandis que dans l'abstraction universelle, j'ai quitté l'individu. Donc l'abstraction universelle abstrait de l'existence. L'abstraction formelle ne supprime pas le point de vue existence. Parce que l'existence, c'est l'être en acte. Le possible n'est pas l'être en acte. Le possible demande d'être réalisé. Et en tant qu'il est réalisé, il est en acte. Cette abstraction formelle est donc à l'intérieur même de l'abstraction universelle de saisir l'ordre. C'est le propre de l'abstraction formelle, saisir l'ordre entre ce qui est en puissance et ce qui est en acte. C'est une distinction beaucoup plus subtile qui présuppose la première. L'abstraction universelle, elle est tout le temps présente. Je ne peux pas la supprimer. En réalité, l'abstraction universelle me met en présence de la nature. L'abstraction formelle me permet de dépasser la nature et de découvrir la personne. Deux aspects très différents entre les deux. Alors, il y a une autre question tout à l'heure, parce que maintenant je crois qu'on n'a pas le temps, c'est débordé. L'autre question, mais c'est très important de comprendre ces deux types d'abstraction au point de vue humain. Abstraction universelle, elle est commune à toute culture. La culture implique l'abstraction universelle. Le chinois implique l'abstraction universelle, puisqu'il y a les caractères qui sont pour tout le monde. Il y a un dépassement de l'individu. Le dépassement de papa par rapport à homme. Revenez toujours à ça, parce que c'est quand même très important, ça. Nous avons tous fait ce dépassement de papa à homme. Et ce dépassement permet la culture. Il n'y a pas de culture vis-à-vis de l'individu. La culture commence à partir de l'universel, la connaissance universelle. Et dans cette connaissance universelle, il y a des distinctions que je fais, parce que l'universel se donne à moi de 5 manières différentes. Quand vous avez compris que l'universel se donnait à moi de 5 manières différentes, vous comprenez alors comment, à partir de la connaissance universelle, la connaissance formelle se fera d'une façon différente selon chacun de mes contacts avec la réalité. Et j'aurai la multiplicité de toutes les sciences. Toutes les sciences présupposent l'abstraction universelle. Et chaque science a une abstraction spéciale, particulière, qui fait qu'elle est science. Et fondamentalement, parce que c'est quelque chose de tout à fait fondamental, la distinction entre mathématiques et métaphysique, c'est ce qu'il y a de plus fondamental dans l'intelligence, ce qu'il y a de plus formel dans mon intelligence. Et c'est pour ça que les confusions sont là les plus ordinaires. On a de la peine à distinguer mathématiques et métaphysiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est de revenir au point de vue générique. Le point de départ a fait une distinction très nette entre les deux. Mais on y revient tout le temps, distinguer mathématique et métaphysique. Aristote a laissé les mathématiques à côté, alors que Platon considère que les mathématiques sont nécessaires à la distinction ultime. Et donc, c'est la distinction mathématique qui demeure toujours.